je ne crois pas qu'on soit alcoolique en France.
Chronique, là, il y a toujours une bonne bouteille sur la table, ça c'est évident.
Revue de presse.
C'est pas pour ça qu'on est alcoolique.
Invité du jour.
Et puis, la bière, ce n'est pas mauvais pour la santé.
C'est tout de suite dans la Happy Hour.
At the happy hour. At the happy hour.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Happy Hour pour une heure d'émission aujourd'hui consacrée aux contes, sans oublier les rencontres. Deux mots pour un même festival, le 32e du nom. Vous l'aurez compris, on vous parle aujourd'hui du festival Contes et Rencontres. Et pour ça, nous avons trois invités aujourd'hui. Isabelle Noyer des foyers ruraux de Lozère, à qui l'on doit ce festival, ainsi que deux conteurs, Ladji Diallo et Lucas Marchesini. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
J'espère que j'ai pas fourché votre nom, Lucas. Super. Et on n'oublie pas non plus les deux chroniqueurs invétérés, Eric et Cyril. Salut à tous les deux.
Oui. Bonjour les gens.
Ils partagent un micro, alors voilà, on les entend pas en même temps. Alors qu'est-ce que vous allez nous raconter de beau tous les deux?
Alors moi je vais vous parler d'une série que je suis en train de regarder en ce moment.
Très bien. Et pour toi Eric?
Je vais essayer de rester dans la thématique de l'émission.
Super. Alors c'est une 32e édition de Contes à Rencontres qui a plutôt bien démarré, Isabelle, avec un spectacle d'ouverture, Parpaing, de Nicolas Petizoff, à l'Espace des Anges à Mende. C'était vendredi,
c'était samedi soir.
Et donc il a affiché complet ce spectacle d'ouverture. Faut dire que plus de 30 ans d'ancrage sur le territoire, ça doit jouer. Sans vouloir faire parjure à ce festival où les mots, ils occupent une place première. On va peut-être donner quelques chiffres pour commencer. En moyenne, ce festival, il rassemble chaque année plusieurs milliers de spectateurs, c'est ça?
Oui, environ 4000 personnes qui viennent chaque année sur le festival. Alors, on sort d'une période Covid où ça a été un petit peu plus compliqué. Mais là, en tout cas, on voit que la fréquentation au démarrage, c'est très encourageant. En effet, complet à Mende. Et puis, avec Ladji à Alain, 80 personnes. Et puis, pareil, dans des petites salles. Et puis, Luca, qui était donc hier au Besson, ouais, avec une soixantaine de personnes.
Qui ont joué tous les deux ce week-end aussi. Ça fait combien de conteurs et conteuses là cette année pour rassembler pour ce festival?
Alors ça fait 9 conteurs et conteuses et plus donc le spectacle d'ouverture et de clôture avec des comédiens, des musiciens, des techniciens. Donc il y a 9 spectacles en tournée sur les territoires. Donc 32e édition du festival, 32 représentations sur un maillage territorial au plus près des habitants qui est quand même relativement important.
C'est ça. Et donc c'est 40 foyers ruraux qui accueillent en fait chaque spectacle. Il y a certains de ces conteurs et conteuses qui sont déjà venus, d'autres pas. Donc là, on a un exemple typique, puisque chacun, pour vous, Lucas, vous êtes déjà venu, Lucas Marchesini.
Ouais, l'année dernière, ouais.
L'année dernière, ouais. Et quant à vous, Ladji Diallo, c'est la première fois que vous venez en Lozère.
Tout à fait, ouais.
Alors, vous êtes venus chacun pour vous, Ladji Diallo, avec deux spectacles. Donc, l'un s'intitule « Ma vallée, un truc de fou ». Vous l'avez donc joué hier à Alain, qui vous le rejouerez mercredi. Et le second spectacle, c'est « Monde à l'envers, cœur à l'endroit », que vous jouerez demain. Et quant à vous, Lucas Marchesini, c'est un spectacle plutôt insolite que vous nous présentez cette année et qui a une forte empreinte lozérienne. On en dira un petit peu plus à la fin de cette émission. Comment il s'intitule ce spectacle?
Ça s'appelle la Risotto Experience.
Voilà, donc ça donne des idées. On va voir ce que vous proposez avec ça. Donc pareil, vous l'avez déjà joué hier et vous le rejouerez demain et mercredi.
Tout à fait.
Alors avant qu'on en parle de vos créations, je propose, si vous en êtes d'accord, qu'on les présente un peu plus à la fin de cette émission. On poursuit, Isabelle, avec vous pour un petit aperçu général encore de cette programmation, cette 32e édition de Contes et Rencontres. Donc vous l'avez dit, il y a une dizaine de conteurs qui sont réunis cette année pour une programmation qui, elle, a un fil conducteur. Est-ce que vous pourriez peut-être nous le dire, lequel c'est?
Oui, tout à fait. Alors, le fil conducteur, c'est la résilience, d'une certaine manière. C'est vrai que cette résilience, forcément, le Covid est passé par là aussi. Et tous les spectacles que l'on a pu voir, cette connotation aussi de se dire que dans la vie, tout ce qu'on peut traverser, il y a des moments difficiles. Et en fait, on en sort grandi, toujours. Et c'est cette la vie qui oscille entre l'ombre et la lumière, et c'est vraiment sur la lumière qu'on voulait rester.
Et le... Pardon, je me suis perdue. Donc la raison de ce choix, vous l'avez dit, c'est lié au Covid. Donc là, l'idée, c'était de mettre en avant donc, des parcours de vie, notamment, histoires de vie, donc, qui sont au cœur de cette programmation. Alors je me tourne maintenant vers tous les deux, Ladji Diallo et Luca Marchesini. Peut-être vous pourriez nous dire à vous, quelle est votre propre histoire qui vous lie au conte ? Qu'est-ce qui vous a amené après à vouloir le pratiquer chacun ?
Lucas, vas-y.
Déjà, moi, si je commence à parler, qu'est-ce qui m'unit au conte ? C'est, je spoil un spectacle, moi. Parce que c'est l'objet d'un spectacle qui s'appelle L'art de rater le train, mais je vous tease un peu.
Qui est actuellement en tournée également, c'est ça ?
Oui, mais pas sur le festival Conte et Rencontre. En gros, moi, je suis italien. Et ben, j'étais parti pour une vie d'ingénieur en informatique. J'ai toujours été très geek. J'ai bien commencé mes études en Italie, puis je les ai poursuivies en Espagne. Et puis le jour où j'arrive en Espagne, la personne qui m'hébergeait me dit non mais faut que tu viennes voir un truc. Il y a un truc de dingue. Et c'est un type qui raconte des histoires. Bon mais il faut que tu vois. Et quand je suis arrivé à cet endroit où il y avait ce type qui racontait, ben je l'ai vu et j'ai dit, moi, je veux être lui, quoi. Je vais faire ça, quoi. Et ça a été très long pour y arriver, mais c'est le voyage qui compte, n'est-ce pas ?
Et vous connaissiez pas, enfin, le conte avant, c'était pas un art que vous
préférez ? Pas du tout. Moi, c'est vrai que je suis parti d'Italie. Quand je suis allé habiter en Espagne, je me disais, ce serait bien que je fasse un peu de théâtre parce que je suis un peu timide. Et puis pour parler avec les filles, c'est compliqué. Alors, peut-être. Mais je connaissais pas du tout le conte. Et voilà, ça a été un flash, quoi. C'était un coup de foudre. Et donc, ça m'a accompagné. Ça m'a accompagné pendant. Pendant ces années-là, de manière très intermittente. C'est-à-dire que je faisais autre chose en même temps, puis je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et donc, en même temps, je suis parti habiter en France. Donc, il y a eu aussi une période d'adaptation à la langue. Mais c'était comme quelque chose qui est toujours revenu en force. En mode, je ne peux pas me passer de ça. C'est quelque chose qui m'appelle, quoi. Et honnêtement, je sais pas vous dire bien pourquoi, mais c'est juste que ça me fait tellement plaisir de le faire. C'est tellement, je me sens tellement à ma place que je suis heureux, quoi, quand je le fais.
Et donc aujourd'hui, vous êtes 100% conteur.
Oui.
Très bien. Et quant à vous, alors, Ladji Diallo, qu'est-ce qui vous a amené au conte ?
Eh ben, c'est un petit peu comme Luca, une expérience un peu foudroyante, un peu évidente. Mais avant de faire la rencontre avec le conte, en fait, disons que moi, je suis devenu conteur à partir du moment où j'ai découvert ma propre histoire. C'est ça qui m'a amené vers le conte. Avant de découvrir le conte, donc moi, je suis originaire du Mali, né à Paris. Je connaissais peu de choses sur l'Afrique. Et j'ai eu une grande période dans mon adolescence où j'étais un petit peu désorienté, sans repère. Et c'est en ce sens-là où j'étais ignorant de ce que j'étais, qui j'étais, et j'essayais de m'accrocher à ma réalité du quotidien, culture essentiellement de banlieue, qui est bien en soi. Mais en tout cas, il y avait en moi comme un espace qui demeurait vide. Voilà. Et il y a un proverbe qu'on connaît tous, africain, qui dit si tu ne sais pas où tu vas, souviens-toi d'où tu viens. Et donc j'ai fait toute une démarche à la suite de plusieurs rencontres, des rencontres qui m'ont renvoyé à moi-même et qui m'ont renvoyé à la question « Mais qui tu es toi, Ladji ?» Et c'est là que j'ai réalisé que je ne savais pas qui j'étais. Et j'ai questionné mes parents, ils m'ont répondu sur qui ils étaient, toute leur histoire, comment ils ont fait pour venir jusqu'en France. Et la langue que mes parents parlaient, le bambara, je ne la parlais pas. Et d'un seul coup, j'ai commencé à être curieux de cette langue-là. Je suis allé au Mali pour la première fois, autour de 18-19 ans, par là. Ça a été un voyage extraordinaire, vraiment. Je pourrais pas vous le raconter là, parce que là...
Ça risque d'être un peu long.
Ouais, ça va être un peu long. Toujours est-il que là-bas, j'ai tellement été nourri de tout ce que j'ai découvert. En revenant en France, j'ai eu envie de partager. Je savais pas comment, et c'est là que le hasard a fait que j'ai rencontré un conteur, un griot, Sotiri Kouyaté.
Comme on les appelle en Afrique, c'est ça,
les griots. Voilà, c'est ça. Sotiri Kouyaté, la famille Kouyaté, et là, pareil, je suis resté scotché sur mon siège par la puissance des mots, la puissance de l'incarnation du corps, la puissance de l'histoire. Et là, j'ai compris que ça serait par ce vecteur-là, le conte, que je pourrais partager ce que j'ai découvert en Afrique, mais aussi mes plus belles découvertes et mes plus grandes interrogations du monde, quoi, que j'ai en moi. Voilà.
Et quant à vous, Isabelle, qu'est-ce qui vous lie au conte, peut-être, vous qui portez ce festival à travers les foyers ruraux ?
Je pense que c'est la transmission aussi, c'est cet intérêt, enfin c'est dans notre mouvement des foyers ruraux, c'est la transmission des savoirs, des savoir-faire, mais aussi des savoir-être, c'est important. Donc la transmission des valeurs aussi, et ça c'est très fort dans le conte et les arts du récit, donc c'est autour de ça.
Et est-ce que vous diriez tous les trois, puisque au vu de vos parcours à tous les deux, c'est plutôt plus grand que vous avez finalement voulu plus vous rapprocher du conte. Donc ça veut dire peut-être que le conte, c'est pas fait que pour les enfants, alors contrairement à ce qu'on peut imaginer quand on parle du conte comme ça, de manière un peu abstraite.
Non, mais en fait, moi, quand j'ai connu le conte, c'était pour adultes. Je savais pas qu'on faisait ça pour les enfants. En fait, c'est après que, quand j'ai commencé à le faire, qu'on m'a dit, non, mais il faut que tu te prépares un spectacle pour enfants, parce que tu vois, le marché, c'est là que ça paye et tout. Et j'étais, mais pourquoi ? C'est tellement bon pour les adultes aussi. Et en fait, bon, après, c'est bon dans tous les cas.
Oui, c'est en fait, on réalise que là, on découvre quelque chose qui existait depuis très longtemps, depuis la nuit des temps, et on sait à quel point toutes les civilisations l'art de la parole a été central dans toutes les civilisations du monde entier, comme Isabelle dit, lieu de vecteur de la transmission, tout ça, et c'est comme ça qu'on véhicule le savoir, qu'on véhicule toutes les grandes interrogations du monde. Et donc les histoires sont porteuses de ça, et ô combien elles concernent absolument tout le monde, quoi.
Et si on devait peut-être le distinguer, parce que ça peut arriver à tort ou à raison, vous me direz, de confondre le conte avec l'art du comédien, avec le théâtre, qu'est-ce que ce serait pour vraiment les distinguer, ces deux arséniques? Voilà, est-ce que d'ailleurs vous-même, vous avez appris le conte en pratiquant du théâtre ou pas?
Alors, bon, je me permets de prendre la parole. Moi, j'ai commencé, avant de découvrir le conte, par le théâtre. Voilà. Ce qui fait que quand j'ai découvert le conte, ça a été une vraie révélation d'une discipline tout autre. Et dans ma pratique du conte, il y a le comédien que je suis. Donc, je suis au service d'une histoire que je raconte, mais avec ce que je sais faire, c'est-à-dire le comédien. Je suis musicien, chanteur, guitariste. Donc tout ça, là, tous ces éléments m'aident à raconter des histoires. Et aujourd'hui, les conteurs sont aussi des artistes qui cherchent et qui vont aussi essayer d'interroger tous les outils dont on dispose. Et il y a des disciplines qui se rencontrent, qui se croisent. Parfois, on ne sait plus trop où sont les frontières. Et j'ai toujours du mal à répondre à cette question. Mais en tout cas, le conteur, quand même, il raconte une histoire. Voilà. Après, aujourd'hui, on va dans le festival. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir toutes les spécificités des différents conteurs.
C'est pour ça que je t'ai laissé parler, parce que c'est une question très difficile à répondre.
Ouais.
Non, mais c'est vrai qu'il faut faire attention, parce que aujourd'hui, on ne peut plus considérer un comédien comme on le considérait au temps de Molière, où les comédiens, ils font de tout, et c'est vraiment ces disciplines-là, ces clôtures entre les disciplines ont de moins en moins de sens. Et moi, la seule chose que, formellement, à laquelle je m'attache, c'est quand je vais voir du théâtre, c'est vraiment de l'acting, c'est-à-dire que ce qu'on voit sur scène, c'est ce qui se passe. Alors que quand je fais du conte, c'est de la littérature, c'est-à-dire ce que je vois sur scène, c'est ce qui se passe dans un autre temps et dans un autre espace. C'est je raconte quelque chose qui ensuite se passe dans le théâtre intérieur des personnes, alors que quand je vais voir du théâtre, je m'attends à voir un truc qui se passe sur scène.
C'est ça, c'est peut-être aussi une histoire de décor. Quand vous êtes, vous, conteur sur scène, vous êtes tout seul, il n'y a pas de décor comme il peut en exister au théâtre.
Ouais, mais tu vois Peter Brook qui fait tout sans décor. En fait, il y a plus vraiment.
Finalement, c'est peut-être pas à dissocier. Alors, ces deux disciplines-là se mélangent et s'imprègnent chacune l'une de l'autre en fonction de.
Ouais, après, c'est dans le monde du conte, auprès des conteurs et conteuses, c'est un vaste débat. Ouais. Je sais pas quel âge tu as, Luca, mais on est à peu près de la même génération. Tout le monde n'a pas ce discours-là. Il y a des conteurs et conteuses qui vont avoir un tout autre discours et qui s'entend aussi et qui veulent être les gardiens un petit peu du conte parce qu'ils ont l'impression que le conte se perd, se noie. Et pour cela, ils ont besoin de définir l'identité spécifique. Et je pense que ça aussi, c'est à entendre. Ouais.
Ouais, je suis d'accord.
Je propose qu'on passe avant de poursuivre sur cette réflexion, puisque de toute façon, on ne pourra pas clore ce débat, puisqu'il est encore en cours. Que Cyril, tu nous présentes ta série, c'est ça, aujourd'hui ?
Ouais.
On t'écoute.
Tout à fait. Alors aujourd'hui, je vais donc vous parler d'une série, d'un animé que je regarde en ce moment. C'est une petite pépite de douceur qui est pour petits et grands. Et ça s'intitule « Komi cherche ses mots ». Donc c'est un animé qui est encore en cours, qui a commencé en 2016. Et alors il n'y a pas vraiment de continuité entre les épisodes, mais il y a quand même un certain fil rouge qui se dégage au fur et à mesure. On y suit donc l'histoire de Komi, c'est une lycéenne qui suit sa vie tranquille de lycéenne, à une exception près. Certes, Komi est très jolie, très populaire, mais à tel point que les autres ont tendance à être très intimidé par sa simple présence. Alors que, au fond, Komi, elle souffre d'une profonde anxiété sociale qui l'enferme dans un quasi-mutisme. Et donc, pas facile de se rapprocher des autres dans ces conditions-là. Mais un jour, elle va faire une rencontre qui va changer sa vie. La rencontre de Tadano. Alors, Tadano, c'est un autre étudiant. Plutôt l'inverse de Komi, il est plutôt impopulaire, il se fond dans la masse. Mais surtout, il a une très grande empathie et une bienveillance vis-à-vis des autres. Donc les deux adolescents s'entendent plutôt vite assez bien. Et Komi lui confiera son plus grand rêve, avoir pas moins de 100 amis. Donc ça fait beaucoup. Et Tadano lui annoncera qu'il l'aidera avec plaisir autant qu'il peut. Donc plus que 99 amis, hein, j'ai envie de dire. Mais ce n'est pas de tout repos parce que le lycée est un peu spécial. Tous les élèves qui y sont réputés pour avoir une personnalité bien marquée, avoir chacun un bon gros caractère, bien trempé, loufoque, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc ça rend chaque amitié à souder aussi palpitante qu'une grande aventure. Ce qui fait que j'aime beaucoup cet animé, c'est parce que vraiment le maître mot, c'est bienveillance. Le sujet de l'anxiété sociale est abordé vraiment pas de façon grave, parce que voilà, je sais que ça peut faire peur comme sujet, mais vraiment c'est très léger, c'est au centre de beaucoup de quiproquos qui sont aussi drôles que touchants généralement. C'est vraiment la série comme je vous disais tout à l'heure, c'est la série doudou par excellence. Qui fait relativiser un petit peu sur nos potentielles difficultés à aller vers l'autre. Et comme moi-même, je suis plutôt du genre réservé, que je ne vais pas facilement vers les gens, c'est une série qui personnellement me parle pas mal, donc si vous êtes dans le même cas, ce sera certainement pareil. Par exemple, il y a énormément de moments où je suis là et je suis devant Komi, je fais « Ah, mais c'est trop moi, en fait !» Par exemple, dans cette scène vers le début, où Komi a deux doigts de la syncope parce qu'elle doit aller chercher une commande Starbucks pour une de ses futures amies. Une commande longue comme mon bras, avec plein de suppléments et d'options. Bref, elle est au bout de sa vie, la pauvre. Donc voilà, c'est vraiment pas une série qui se prend au sérieux. C'est idéal à regarder après le travail. Je pense que c'est vraiment ce dont on a besoin en ce moment. Donc voilà, si jamais vous décidez à sauter le pas, j'espère que vous passerez un agréable moment.
Tu peux rappeler encore une fois les titres ?
Oui, tout à fait. C'est Komi cherche ses mots. Komi, K-O-M-I.
Et qu'on peut retrouver sur quel type de plateforme ?
On peut le trouver sur Netflix.
Ok, sur Netflix. C'est
sur Netflix, ouais.
Vous la connaissez, cette série ?
Pas du tout.
Vous découvrez. Ouais,
c'est une découverte.
J'espère que vous apprécierez.
Merci, Cyril. On poursuit notre tentative de circonscription du conte tel qu'il se pratique aujourd'hui. Alors, à la différence peut-être du théâtre, comme j'avais essayé de l'amener, c'est peut-être le lieu du conte, en tout cas au tout début, quand il a commencé à se répandre, et notamment en Lozère, puisque c'est peut-être aussi ça l'origine de ce festival, c'est qu'il se faisait, c'était des temps de veillée, comme on pouvait l'appeler avant, Et c'est ça, c'est parti de là, en fait, en tout cas, la création du festival ici en Lozère.
Oui, vraiment. C'était des veillées au coin du feu. Alors, le berceau du festival, ce sont les Cévennes. Donc, avec le Parc national des Cévennes aussi, qui est d'ailleurs un partenaire historique et qui accompagnait, donc, qui finançait ces veillées avec des conteurs. Et puis, ça se terminait souvent par un temps le temps de rencontre, le temps convivial, d'où le nom du festival, Contes et Rencontres, et les personnes qui étaient présentes et qui pouvaient elles-mêmes raconter des histoires, chanter ensemble. C'était vraiment le fait de transmettre des choses. La tradition orale en Lozère est forte également, et c'était ce mélange qui fait aussi qu'à un moment, après chaque représentation du festival, où les foyers ruraux qui co-accueillent offrent un temps aussi de médiation entre les conteurs qui sont présents et qui se mélangent aux personnes, et puis les personnes viennent vers eux leur parler, et c'est de la médiation culturelle, en effet, se rapprocher, et ce niveau de cette égalité qui permet à un moment de pouvoir facilement aborder les conteurs qui sont présents.
Il y a eu aussi un choix un peu particulier pour un festival qui est celui de l'hiver.
Oui, alors l'hiver, parce que c'est un temps où, à l'époque, les agriculteurs aussi, et puis encore aujourd'hui, qui étaient peut-être beaucoup plus présents sur le territoire, et qui, on a le temps, on a plus de temps. On est aussi dans une région qui est quand même touristique, où tout va trop vite à plein d'autres moments, et l'hiver, c'est le temps où on se pose et où on le prend. Donc, d'où la raison qui est chère de pouvoir garder le festival au cœur de l'hiver.
À cette période.
Tout à fait.
Un rôle de transmission, hein, donc, comme on a dit tout à l'heure, hein, du conte, c'est ça qui le définit notamment. Il fait lieu de mémoire collective, en fait, et d'histoires anciennes pour qu'elles nous parviennent jusqu'à nos jours. L'idée pour des conteurs, c'est finalement de se faire un peu le passeur de cette mémoire à travers cette voix qui est l'oralité, donc la parole. Qu'est-ce que, pour vous deux, Ladji Diallo et Luca Marchesini, la parole, elle est capable de capturer, que ne pourrait le faire aujourd'hui, en tout cas, l'image ou le texte, par exemple, écrit. Qu'est-ce que la parole peut garder en plus ?
Moi, ce que j'aime de la parole, c'est que c'est émancipateur. Je trouve vraiment qu'il y a un pouvoir émancipateur dans toutes les arts de la parole, parce qu'on découvre à quel point on peut faire des choses extraordinaires avec juste notre imagination, juste ce qu'on a dans notre tête, sans dépendre d'une image de synthèse qui vient d'un écran ou d'une réalité virtuelle ou d'un tas d'instruments qui vont nous susciter des émotions.
Orienter peut-être le...
Ouais. Ouais, de manière synthétique, quoi, alors que vraiment, en fait, c'est hallucinant, la parole, le pouvoir que ça a. Et vraiment, on vit à une époque où on pense en termes toujours d'image et on ne se rend pas compte, je pense qu'on ne parle pas assez, on ne met pas en avant ce pouvoir que la parole a d'évoquer des images, des sensations, des émotions, juste avec ce petit symbole qui est une parole toute simple, un mot.
Quant à vous, Ladji Diallo ?
Moi, je dirais que la parole, elle a cette spécificité d'être l'art de la relation. Moi, je suis toujours, encore hier, j'ai joué à Link, je suis toujours émerveillé à chaque fois que je raconte une histoire. À un moment donné, on est tous ensemble. C'est comme si la parole, elle arrivait à susciter, à mobiliser ce qu'il y a de plus... le cœur de la personne, en fait. Et quand on est un groupe de 100, comme ça, tous, où on est tous captés et on est tous au diapason, du coup, cette parole, elle va dans... C'est comme s'il y avait une forme de simplicité. On est tous là, on est tous présents et on vibre tous à l'unisson, à travers la voix du conteur, mais ça vient toucher ce qu'il y a de très très profond, très intime, et il y a ce truc d'être en relation et de rassembler, et encore une fois, c'est là où on est lié à l'histoire. Mmh. Et c'est comme ça que le conte a démarré. Et à chaque fois qu'un conteur raconte une histoire, eh ben, il perpétue ce rassemblement, ce lien simple et en même temps tellement puissant, tellement évident en fait.
Et c'est peut-être aussi le conte, contrairement toujours à l'image, parce qu'il y a beaucoup de contes qui ont été adaptés, notamment en dessin animé. On peut penser à Walt Disney, qui est un des premiers à avoir fait son commerce là-dessus, si on peut dire comme ça. Le conteur, en tout cas aujourd'hui, peut-être que sa capacité vis-à-vis de l'image, sa liberté, c'est qu'il peut plus facilement adapter peut-être toutes ces histoires qui se transmettent au fil des siècles, mais qui finalement sont réactualisées, non ?
Oui, tout à fait.
C'est comme ça que vous le voyez aussi ?
Oui, tout à fait. C'est que entre Luca et moi, ce qu'il y a de fabuleux, c'est que si on raconte les mêmes histoires, on aura l'impression presque que c'est deux histoires différentes. Mmh. Et c'est là où le conteur intervient. Et c'est que pour transmettre l'histoire, il faut l'éclairer. Il faut l'éclairer et on l'éclaire avec ce qu'on est, avec sa singularité. Et c'est comme ça que l'histoire va continuer à vibrer à nouveau. Si on se fait, entre guillemets, les perroquets de d'autres personnes, l'histoire, eh ben, elle meurt. Et en fait, quelque part, le conteur a besoin d'être au maximum lui-même pour faire perdurer et faire vibrer une histoire auprès d'un public.
Et réinterroger la société telle qu'elle est actuellement. Est-ce que du coup, on pourrait peut-être, le conte pourrait éviter d'être taxé de cancel culture, enfin pourrait peut-être éviter tout ça, non ?
Comment tu dis ?
La cancel culture. Alors,
elle pourrait éviter
concept.
D'être.
Non, elle pourrait justement éviter de passer par ça, quoi. Par le fait qu'on puisse estimer qu'une œuvre résonne moins bien dans l'actualité qu'elle pouvait l'être à un moment parce que les mœurs n'étaient pas les mêmes et tout ça. Mmh. Le conte a cette malléabilité toujours de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Une histoire se dit depuis très longtemps, mais comment elle peut résonner aujourd'hui, en fait ?
Ouais, là, tu touches une corde sensible.
Ah, ouais. Pourquoi ?
Ben, parce que moi, ça m'arrive de plus en plus de raconter des contes traditionnels ou des contes merveilleux. Ben, y a des trucs qui ne passent plus. Il y a un rapport au consentement dans le conte traditionnel qui n'est plus du tout celui qu'on est en train de forger aujourd'hui. Et je veux dire, heureusement qu'on y réfléchit et qu'on avance là-dessus. Mais c'est clair que tout ce qui est patriarcat, tout ce qui est consentement, tout ce qui est répartition des tâches dans la vie de famille, aujourd'hui, on remet tout ça en cause et pour le plus grand bien. Mais c'est vrai qu'on va raconter ça et y a la cancel culture qui arrive, qui dit non mais attends, ça tu peux pas raconter ça comme ça, et sans que ce soit même le public qui le dit, hein, toi-même en tant que conteur tu t'auto-censures de dire bah non, en fait je peux pas raconter ça. Je veux dire, il y a des versions de certains contes où il y a des viols manifestes racontés. Il y a une version de La Belle au bois dormant de Basile où il y a un viol.
Ouais.
Voilà, après il y a des versions, bien sûr. Donc on va effectivement, comme tu le dis très bien, amener cette réflexion dans notre art, et on est en plein dedans, quoi. On est en plein dedans, et y a même des séminaires, des tables rondes qui s'organisent en ce moment, typiquement au CMLO, autour des questions de genre, et je fais partie aussi de groupes de conteurs qui réfléchissent autour de ça, et on cherche vraiment des solutions, parce qu'à la fois, c'est des symboles, on ne peut pas les dénaturer, on ne peut pas les faire
disparaître
ou les rendre fades, mais à la fois on ne peut pas non plus cautionner des actes violents ou des choses sur lesquelles nous, en tant que société, on est en train d'avancer, quoi.
Du coup, c'est exactement ce que tu dis, c'est que les conteurs et conteuses justement s'interrogent sur qu'est-ce qu'on a envie de dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a envie de dénoncer aussi. Il y a aussi parfois un acte politique. Parce que on comprend à quel point la parole a un pouvoir. Et ça nous demande aussi une introspection, parce que malgré nous, il y a des choses qu'on a intériorisées et qu'on véhicule. Moi, ça m'est déjà arrivé de raconter des contes et d'avoir été interpellé par une personne du public en me disant « Mais là, ce que vous dites et tout... » Et en fait, je m'en étais pas rendu compte, en fait. Et ça nous demande, du coup, d'être vigilant et de comprendre, aussi de faire un travail, je dirais, d'enquête sur les comptes. C'est-à-dire, il y a parfois des choses qui nous dérangent et qu'on voudrait aussi enlever du compte. Mais quand on enquête, on comprend d'où ça vient et on comprend quelles ont été les transformations qui ont mené à ce truc-là. Et parfois, en revenant à la source, on se rend compte qu'il faut repartir de là, de la source. D'autres fois, comme Luca a dit, on fait des choix parce que aujourd'hui, on a un système de pensée, valeur de pensée qui est différent de à l'époque du Moyen Âge ou autre quoi. Donc ça nous demande d'être vigilant et de s'interroger.
C'est marrant ce que tu dis qu'en tant que compteur des fois tu bosses et tu fais pas gaffe. Parce qu'en fait le compte c'est un art du rêve. Donc toi tu rêves, tu es dans ce rêve collectif qui passe d'une personne à l'autre, d'une génération à l'autre avec ses symboles et tout et toi t'es vraiment dans cette dimension onirique. Et bon, on le sait tous, dans les rêves, des fois, on rêve des trucs qui sont pas très politiquement corrects, quoi. Mais du coup, on dit, bah, c'était un rêve, c'était bizarre et tout. Et après, t'es sur scène, tu le dis, et les gens, ils viennent te faire la remarque, et toi, t'es là, oh non.
Mais c'est peut-être aussi une des vocations premières du conte, non? De braver les interdits, toutes ces choses-là. Avoir affaire à des situations complexes, et via le conte, via une histoire un peu symbolique, on cherche à s'en dépêtrer finalement.
Non, c'est un art d'équilibriste du coup. Il faut braver un peu les interdits, mais il ne faut pas non plus. Parce que sinon, quoi? Sinon, on va enfoncer tout le monde et. on n'a pas non plus envie d'être des messagers du patriarcat non plus.
Voilà. Messager, j'allais justement vous demander pour vous, en tant que conteur chacun personnellement, c'est quoi votre rôle pour vous en tant que conteur aujourd'hui?
Être un messager, c'est ça? Dans la société?
Ouais. De perpétuer cet art qui est du coup ancestral, on peut dire.
Moi, je dirais, c'est un peu, je vais me répéter un peu. J'ai profondément besoin de faire du lien avec l'autre. Ça, c'est une des choses premières. Besoin aussi de convoquer l'intime de chacun. Voilà. Et dans cet intime de chacun. Eh ben, on va véhiculer, des questionnements. Qui suis-je? Pourquoi on est sur Terre? Et pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et en même temps, moi, dans mon axe principal, pour moi, c'est la richesse qu'il y a de rencontrer celui qui est différent. Moi, je suis franco-malien, donc j'ai deux cultures et j'habitais à Paris, aujourd'hui j'habite dans les Hautes-Pyrénées, c'est la rencontre encore de deux cultures, et je vois, j'ai expérimenté dans ma vie que ça fait, la différence évidemment fait peur, et on a par facilité tendance à rester dans le connu, mais l'inconnu est source de richesse en fait, l'autre, la différence. Et dans mes spectacles, les axes qui sont souvent développés implicitement, c'est celui-là. C'est la richesse qu'il y a de rencontrer l'autre. Donc c'est un petit peu à cet endroit-là que je me situe en tant que conteur.
Qu'est-ce que tu parles bien, mec?
C'est trop bien. Vous en restez bouche bée, quoi.
Non, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est vraiment... quand tu dis ces choses-là, ça me fait vraiment penser à la rencontre que j'ai fait avec le comte en Andalousie, à Grenade, quand j'ai vu ce gars qui racontait. Vraiment, c'était ça. C'était la simplicité chargée de puissance. D'un moment, et tu dis, mais qu'est-ce qu'on fait là? On est là, on est assis, juste il y a un type qui parle. Et à la fois, c'est pas un truc normal ce qui se passe là-dedans. Et c'est vrai que... quel est notre rôle? C'est peut-être un peu ça. C'est peut-être le fait de continuer à faire vivre aux gens cette expérience-là. De juste, en fait, les gars, on se met ensemble et vous allez voir, il va se passer un truc. Et on n'a pas, on n'est pas en train de faire un jeu ou un sport ou un jeu vidéo ou regarder un film. Non, rien. On est juste ensemble et on se raconte des histoires. Point. Et c'est, franchement, c'est balèze.
Comment on sait qu'une histoire est bonne à raconter? Est-ce que toutes les histoires sont bonnes à raconter ou c'est juste la manière de les raconter qui suffit
Je te laisse répondre.
Merci pour cette question. C'est des très très bonnes questions. Et non, moi je pensais que j'allais venir.
Vous pensiez quoi?
Je fais ça. Je crois que c'est vraiment propre à chacun. En fait, quelquefois on dit à un conteur avant de raconter, de choisir une histoire, on dit que c'est l'histoire qui choisit le conteur. Ouais. En fait, et c'est vrai que parfois on va lire des histoires, entendre des histoires. Et on ne sait pas pourquoi, machinalement, on va y revenir à cette histoire. Parfois même, moi, ça m'est arrivé que l'histoire ne me plaise pas à la première
écoute.
Et
après, tu la racontes.
Et après, je la raconte et tout. En fait, il y a un mystère qui s'opère et donc il y a ça. Il y a ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe, une attirance pour un conte. Après, comment on sait? J'ai déjà raconté des histoires où je me suis dit, ben non, en fait, ça passe pas. Et je sais pas pourquoi. Peut-être que moi, je l'ai pas assez bien travaillé. Peut-être que, il y a quelque chose qui passe pas auprès du public. Je n'en sais rien, en fait. C'est pas évident à comprendre comment ça, pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas. En tout cas, ça nous demande un grand travail d'écoute et parfois, il y a des histoires qui, pendant un temps, qui ne marchent pas, mais on persévère et ça passe. Mmh. Donc, je crois que c'est pas mal en lien avec ce qu'on est et ce qu'on a envie de transmettre, en fait. Pour moi, je trouve que le conteur... Enfin, c'est très difficile d'être conteur parce que on peut pas tomber dans la facilité. On peut pas dire bon ben ça marche, alors je le fais.
Ça s'entendrait sinon.
Ben
c'est
oui.
Automatique. Tout
c'est
fait.
Ça. C'est que le conteur, il raconte avec, je dirais, lui, avec ses tripes, avec ce qu'il est, et il a besoin d'avoir une cohérence entre le conte et ce que lui il est. Il faut que ce soit une osmose quoi. Et quand il y a un écart. Ça se sent, et puis même moi, je me sens un peu distordu, je me sens pas à l'aise, en fait.
Ouais, t'as cette sensation quand tu racontes et c'est vide. Mmh. Et en fait, il y a ce froid dans la salle, l'air est froid. Et vraiment, pour moi, c'est comme la température de l'air, quoi. Tu sens des fois l'air est chaud, même si t'es dans un truc hyper froid. Par contre, si ça marche, l'air est chaud et dense, alors que si ça marche pas, l'air est froid et pas dense du tout, genre vide.
Oui, on vibre moins.
Mais ta question, toi, tu poses des questions, tu nous fais bosser.
Un peu
là, parce
tarabiscoté,
que,
ouais, quoi.
Non, ce sont pas tarabiscotés, mais il y a des monstres sacrés du renouveau du conte qui s'attaquent à ça et répondent par des haïkus, des choses très ambiguës, très difficiles. C'est très difficile de savoir ça. C'est une attirance esthétique, des fois. Des fois, c'est que le conte politiquement dit quelque chose que tu as envie de raconter. Des fois... ça touche à une corde de ta psyché qui t'as pas réglé, t'as un truc pas réglé, donc t'as envie de le raconter pour le régler devant les gens, donc tu te foires, donc tu fais sentir mal tout le monde et tu t'en rends pas compte. C'est ce que Catherine Zarka t'appelle la décharge. Et donc voilà, oui, des fois le conte nous choisit, des fois on essaye, des fois on n'y arrive pas, des fois on y arrive des années après, et quand on le conte. Il y a un conteur chilien qui s'appelle Carlos Genovese qui dit « Le conteur doit compter avec tout. Avec lui, avec les autres, avec son temps, avec la société, avec les problèmes qu'il a et avec les problèmes qu'il y a dans la société et aussi avec les problèmes qu'il y a eu avant et les problèmes qu'il y aura après. » Et il faut tout embarquer et c'est pour ça que c'est vraiment pas facile de faire ce métier, je pense. Il faut vraiment avoir un regard très large, très... Et évidemment, c'est impossible, mais on essaye, on élargit le plus possible.
Isabelle ?
Oui, on est vraiment dans la sincérité. Je pense que c'est ce que les gens recherchent. On ne peut pas mentir sur... On raconte une histoire, elle fait partie de nous, enfin de vous. Les gens le sentent, ça les capte. Nous, quand on fait la programmation du festival, parce qu'on va voir tous les spectacles, c'est ce qui vient nous toucher aussi. Quand on voit ça, on se dit, bah, tiens, tel spectacle à tel endroit, parce qu'il y a une répartition sur le territoire, une trentaine de représentations, et on sait qu'il y a des spectacles qu'on peut mettre dans un lieu, mais pas dans un autre. Parce que c'est une question de sensibilité aussi. C'est, voilà, c'est toute la finesse et la difficulté de programmer quelque chose. C'est vrai qu'entre les Cévennes et la Haute-Lozère, les publics ne sont pas les mêmes. Et en même temps, la richesse du festival, c'est plein de propositions différentes. C'est d'éveiller les curiosités. Et le public lozérien est un public exigeant, on le sait. C'est un public à l'écoute et captif. Et tous les conteurs nous le disent chaque année parce qu'on n'entend pas une mouche voler donc, pendant ces représentations. Et en même temps, ce que je trouve, le lien entre les conteurs et les bénévoles des foyers ruraux qui co-accueillent les spectacles, c'est la générosité. C'est vraiment, voilà, je trouve que c'est toujours quelque chose de très fort. Chacun donne. Et dans la vie, c'est ça aussi. C'est, voilà.
Je propose, Eric, que tu nous donnes ta vision, toi, des histoires qu'on nous raconte.
Justement, ce qui est bien avec les histoires ou les contes, c'est que cela permet de voyager dans sa tête sans avoir à se déplacer. Alors vous admettrez que dans une saison de grève comme la nôtre, c'est plutôt pratique de pouvoir voyager sans avoir à se déplacer. Puis comme cela, on n'a pas un bilan carbone trop élevé. Après, on n'est pas obligé de faire que voyager dans sa tête. On peut décider de faire plein de choses qu'on n'aurait pas le temps ou les capacités de faire autrement. Ainsi, j'aime bien la magie. Aussi, sachez que je fais des tours extraordinaires. Et en sport, j'ai atteint un niveau assez exceptionnel au basket. Bon, toujours dans ma tête, mais ce n'est déjà pas rien. Je pourrais aussi ne rien faire dans ma tête. Après, quand on en voit certains, j'ai l'impression qu'ils font un peu pareil. Comme le président Macron, qui fait tout pour régler les problèmes environnementaux, climatiques, sociaux, mais seulement dans sa tête. Ce qui est bien avec Contes et Rencontres, c'est qu'on va pouvoir voyager ensemble dans les histoires que les conteurs vont nous apporter dans toute la Lozère pendant le mois de février. Après, je ne sais pas si le festival a prévu un petit carnet de notation, parce que bon, dans l'époque dans laquelle nous vivons, nous devons noter le moindre service rendu. Il faudra certainement valider si nous avons fait un beau voyage ou si les turbulences n'ont pas été trop nombreuses. Maintenant, il faut tout noter à coups d'étoiles ou de smiley, parce qu'on nous intime désormais même d'arbitrer les arbitres, de juger les juges, de critiquer les critiques, de noter les profs. Il y en a plein comme ça, donc de juger de la qualité d'un spectacle. Il est donc important également de savoir comment bien juger une histoire, et c'est pour ça que pour vous, chers auditeurs et futurs spectateurs de Contes et Rencontres, je vais vous donner les barèmes pour bien lever ou baisser le pouce à la fin des soirées. Alors, vous allez voir, c'est assez simple, mais très sérieux, ces notations. Ainsi, pour bien noter une histoire, il faut essayer de répondre principalement à trois questions. Alors, qu'est-ce que cela me dit du monde ? Est-ce que cela crée en moi des images ou un voyage ? Et est-ce que c'est un voyage que j'ai déjà fait ou des images que j'ai déjà vues ? Alors, vous pourrez même utiliser ces trois questions dans la vie de tous les jours, puisque tout est devenu une question de récit, et donc d'histoire que l'on nous raconte. Que ce soit en politique, dans le sport, dans le marketing, surtout dans le marketing, dans les médias, et j'en passe. Alors, si vous respectez bien ma grille de notation, vous verrez que vous saurez noter un bon récit. Allez, juste un dernier mot sur les plus belles histoires, ou celles qui font le plus réfléchir. En vérité, ce ne sont pas celles qu'on effleure du doigt, ou qu'on lit dans les pages des journaux, ou qu'on zappe à la télé ou sur les plateformes de streaming. Non, les plus belles histoires n'ont pas 97% d'avis favorables. Les plus belles histoires ne se notent pas, ce sont celles qui nous procurent le plus d'émotions. Nous font réagir, réfléchir, un peu, rire, beaucoup, pleurer, sourire. Celles dont on repense encore des années plus tard, ce sont celles qu'on partage au coin du feu, comme dans l'éveillé, ou celles qu'on se fait dans sa tête.
Oui. Il est très habité dans sa tête. Je propose maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on parle de vos spectacles un peu. Il nous reste un petit quart d'heure. Ladji Diallo, vous avez deux spectacles déjà. Question, pourquoi vous en avez deux, vous, et pas Lucas?
Alors ça, c'est pas à moi qu'il faut poser la question.
C'est un choix, en fait, parce que j'ai vu Ladji sur deux spectacles différents et les deux me semblaient très bien. Et comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport au choix des foyers ruraux, puisque c'est eux qui choisissent les spectacles qu'ils vont co-accueillir. Okay. Donc voilà, il y avait cette proposition-là.
Entendu. Donc, Monde à l'envers, cœur à l'endroit pour le premier que vous avez donc déjà joué dimanche. Et que vous rejouerez.
Alors, c'est Mavel, un truc de fou que j'ai.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Voilà. Mavel, un truc de fou que j'ai joué hier.
Oui.
Voilà.
Ok.
Et Monde à l'envers, car l'endroit, c'est demain.
Voilà. Ouais. Donc, vous, c'est des récits très personnels, en fait, hein, là, ces deux histoires-là.
Oui, c'est ça. En ce moment, là, ces 10 dernières années, je m'inspire beaucoup de mes expériences personnelles pour essayer de faire en sorte que ma petite histoire fasse écho à la grande histoire, en fait. Et je sais pas, m'avaler un truc de fou.
On peut parler Déjà de celui-là, ouais. Donc là il est question justement que vous le disiez tout à l'heure en tout début d'émission, que vous avez grandi en banlieue parisienne,
c'est
que
ça.
Vous vouliez connaître un peu plus vos origines, notamment ouais. de vos parents qui venaient du Mali, mais aussi du fait que vous-même avez déménagé ensuite de Paris dans les Pyrénées,
ouais.
voilà.
Ouais.
Et donc c'est tout ça qui se joue en fait.
C'est ça, en fait dans ce spectacle, ce dont il est question, c'est je débarque dans les Pyrénées et je raconte au public ce que je vois. Avec mon regard de jeune de banlieue, je raconte le paysan du coin avec son accent rocailleux, je raconte la nature, la faune, la fleur, je raconte les légendes du coin. Et en fait, c'est un peu l'émerveillement, en fait, l'émerveillement de la différence, de l'autre. Et ça, en fait, je crois que ça rejoint beaucoup d'expériences que les gens ont pu faire venant d'un endroit et allant dans un autre endroit complètement nouveau. Et se mettre au diapason de l'autre et de voir à quel point, en fait, on arrive à faire humanité avec des gens qui nous semblent totalement différents. Moi, j'hallucine de voir à quel point j'ai des débats philosophiques avec mon paysan qui s'arrête sur son tracteur, qui roule sa roulée, qui se met à fumer, qui parle un peu comme ça avec l'accent. Et je me mets à parler avec lui, et puis on a des conversations aussi puissantes que mon pote Sofiane, qui est avec qui que j'ai rencontré en banlieue, en fait. Mmh. Et c'est un peu dans ce spectacle, voilà, c'est un peu ça. Il y a de la fraîcheur. Il y a de l'émerveillement, en fait, c'est ça. C'est un spectacle sur un peu cet l'émerveillement de la différence.
Et le second, c'est plutôt des parcours, des rencontres que vous avez faites. Alors, attendez, j'essaie de relire.
Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, sur le monde à l'envers, cœur à l'endroit, là, on est sur la différence au niveau, je dirais, du handicap, des blessures physiques qui se voient et des blessures qui ne se voient pas du cœur. Et dans ma vie, en fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer tout un tas de personnes qui m'ont fait voir le monde autrement, en fait. Disons que là d'où je venais, j'étais toujours avec les mêmes potes et pour nous, on était dans une image de puissance, j'ai envie de dire.
Effet
de groupe. Et puis moi, à cette époque-là, j'étais quelqu'un d'assez bagarreur. J'étais vraiment dans un rapport de force à l'autre. Et quand j'ai rencontré toutes ces personnes-là, par le hasard de la vie, m'a fait rencontrer des personnes trisomiques, des personnes atteintes de maladies en sclérose en plaques, des personnes, des gars de la rue qui sont avec leurs chiens, leurs canettes de bière. Et puis finalement, en fait, en acceptant la rencontre, j'ai appris à rentrer à l'intérieur de ces personnes-là et à voir toutes leurs dimensions humaines et tout ce qu'ils avaient à m'apprendre. Et en fait, c'est comment mon regard sur la différence a changé et comment ça peut m'apporter dans la vie d'apprendre à regarder l'autre sans la barrière du jugement, en fait.
Donc le monde à l'envers, c'est votre propre vision que vous avez renversée, quoi.
Ouais, en fait. c'est ça.
Et cœur à l'endroit.
Voilà,
d'accord. C'est ça. Désolée, on n'a plus beaucoup de temps, donc on ne peut pas s'étaler énormément. Quant à vous, Lucas, donc, c'est quoi cette expérience risotto là, que vous nous proposez
Eh ben, c'est un atelier cuisine, un repas partagé et une veillée comptée autour de ce qu'on a cuisiné et mangé.
Et donc, du coup, là, il est question d'associer le conte avec l'art
avec
culinaire.
La nourriture, ça. Ouais.
Question de bouche, toujours, mais...
Oui, oui. Je ne sais pas trop pourquoi, depuis toujours, j'ai considéré que cuisiner, faire à manger pour les gens et compter, ça tirait les mêmes ficelles, en fait. C'était un petit peu la même chose. Et c'est vrai que l'année dernière, en rentrant de Comté Rencontre, j'étais sur la route et j'ai appelé Isabelle. Je lui ai dit, ça te dirait qu'on fasse un spectacle qui unit conte et cuisine. Et elle me fait, pourquoi? Et je lui ai dit, non, parce que moi, je fais le risotto et vous avez les cèpes. Et puis moi, je fais le risotto avec les cèpes. Et puis on pourrait... Et là, elle m'a dit, vas-y, écris un petit dossier et puis on va voir. Et finalement, ça fait écho, quoi. Et donc, hier soir, c'était la toute première, en fait, officielle, parce que depuis ce temps, qu'on te rencontre et donc partenaire de création de ce spectacle. Donc la première a été hier soir et c'est vrai qu'on s'est régalé autant la bouche, les oreilles, l'estomac et les cèpes étaient un truc de fou.
Exceptionnel. Vous êtes en Lozère en même temps.
Et ouais.
C'est ça. Et l'expérience, elle a été menée aussi en partenariat avec le foyer rural de Saint-Laurent-de-Trèves où Luca est allé faire cette expérience fin janvier avec plein de choses donc pour continuer à poursuivre et à enrichir ce spectacle.
Entendu. Et je voulais peut-être qu'on termine, puisque notre émission a un peu porté là-dessus, sur le conte aujourd'hui. Et il y a une soirée un peu spéciale qui va parler de ça, avec un invité plutôt bien connu dans le milieu du conte. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Isabelle, c'est jeudi?
Oui, Kamel Guénoun. C'est une rencontre-débat. Kamel Guénoun nous accompagne pendant une dizaine de jours autour de son spectacle. Mais aussi, c'est quelqu'un qui, à la base, est un animateur socioculturel qui est très proche de notre mouvement par l'éducation populaire. Donc, il va venir raconter d'abord, en effet, cette rencontre, pourquoi le conte, l'évolution du conte, mais aussi à travers donc l'histoire de Blanche-Neige, à travers les siècles, donc pour comprendre un peu ce qu'il en est, et puis après débattre avec les personnes qui seront présentes. Donc
c'est à l'Espace des Anges. À partir... Non, ça a changé.
Non, c'est pas à l'Espace des Anges, il y a une erreur. C'est la salle Jean Jaurès.
C'est moi qui ne sais pas lire. C'est bien marqué Jean Jaurès. Donc c'est à l'Espace Jean Jaurès à 18h.
Voilà.
Gratuit. Est-ce qu'il faut réserver ou pas? Parce que j'imagine qu'il y aura peut-être beaucoup de monde ce soir-là. Ou...
Non, c'est pas nécessaire de réserver parce que la salle est quand même relativement grande. Donc, Kamel Guénoun qui nous accompagne aussi sur deux stages de conte. Alors c'est une nouveauté cette année.
Ouais.
D'habitude, on propose un stage. Là, il se trouve qu'on en fait un deuxième, puisque c'était une demande aussi du public et on essaie de répondre à l'évolution. Donc, pour l'évolution du festival, à ce qu'on nous demande, des conteurs semi-professionnels qui vivent sur ce territoire et qui avaient envie de monter en puissance d'une certaine manière. Et pour nous, Association d'éducation populaire, la montée en compétence, c'est quelque chose qui est essentiel et on voulait l'accompagner. Donc, on a 4 conteurs qui vont venir sur ce stage, tout a été raconté sauf par toi, et donc qui est complet, puisqu'il était limité. Par contre, il reste de la place pour le stage les 18 et 19 février à Badarou, remplir sa caisse à outils. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour la Fédération des foyers ruraux.
Et tarif peut-être, c'est sur un week-end?
C'est ça, sur un week-end.
60 euros.
Exactement. Voilà. Okay. Pour ces deux journées.
Tu sais lire.
Je sais lire. Incroyable. Heureusement.
Voilà. Et vraiment, on vous encourage à venir à cette rencontre. Kamel est quelqu'un de très accessible.
Et puis, comme on le disait en tout début, cette 32e édition qui intervient après 2 années de pandémie, là, la rencontre, elle est remise au goût du jour. Donc, à chaque fin de spectacle, il y a une rencontre avec les conteurs. Et donc là, les stages, c'est aussi... amplifier finalement ces échanges entre public et artistes.
Tisser du lien social, c'est vrai que ça reste un des fondements des foyers ruraux. C'est très important pour nous de pouvoir le faire et on est très bien reçus, tout le monde. Enfin voilà, c'est vrai que c'est gratuit, c'est temps conviviaux et les bénévoles préparent des gâteaux, une soupe. Enfin, c'est toujours très fort, très riche et c'est un temps partagé qui dure un certain moment d'ailleurs. Donc, c'est vraiment agréable.
On arrive à la fin de cette émission. Quant à vous tous les deux, on peut vous retrouver très prochainement. J'essaie d'en trouver la bonne page. Donc vous, Ladji, vous allez jouer donc M'avaler un truc de fou mercredi. Donc ce sera à Pont de Montvert à 19h. Mm-hmm. Et Monde à l'envers, cœur à l'endroit, ce sera dès demain à 20h30 à Gatuzière, mm-hmm, à l'Ancien Temple.
C'est ça, super.
Et quant à vous, Isabelle?
Non, pardon.
Quant à vous, Luca Marchesini, donc votre fameuse risotto expérience, ça se rejouera donc demain à Florac,
oui,
et mercredi à Grèze.
À Grèze, voilà. Ouais.
Et donc là, c'est en plusieurs étapes, donc il faut venir un peu plus tôt, à 17h, là, il est marqué.
Oui, il y a en fait ceux qui s'inscrivent à l'atelier cuisine doivent venir à 17h.
On peut choisir.
Oui, oui, okay. Oui. Oui, il y a des gens qui viennent cuisiner, d'autres qui viennent manger, d'autres qui viennent voir les contes et d'autres qui font tous les trois ensemble.
Ok, très bien. Isabelle.
Moi, je voulais juste insister sur la richesse du partenariat aussi. Le festival Contes et Rencontres n'existerait pas sans les foyers ruraux, les bénévoles qui co-accueillent, mais sans les partenaires aussi. C'est vrai que cette 32e édition, il y a un vrai partenariat avec les partenaires culturels comme les Scènes Croisées, le Théâtre de Mende, avec qui nous étions partenaires pour l'ouverture, et c'est mutualiser à la fois des réseaux et mutualiser aussi des moyens, et donc nous étions complets, mais aussi tous les autres partenaires financiers, qui, le conseil départemental, la région, enfin beaucoup, le parc national, beaucoup de personnes qui accompagnent ce festival, et vraiment nous les remercions profondément, parce que sinon ce festival n'existerait pas.
Et on vous remercie de notre côté pour nous proposer une programmation aussi riche. Merci encore à tous les trois d'être venus aujourd'hui à notre studio.
À vous.
Ouais. Isabelle a encore quelque chose à dire.
Oui, vous pouvez nous retrouver, donc la Fédération des foyers ruraux, tout le programme sur lozere.foyerruraux.org.
C'est merci tout bien beaucoup. Noté, je mettrai aussi les petits liens, tout ce qu'il faut. Merci Ladji Diallo, merci Lucas Marchesini, merci Isabelle Noyer. Et bien, merci à tous les deux aussi, comme d'habitude, Cyril et Eric.
Il n'y a pas de quoi.
À bientôt.
Merci à vous.
Très bonne journée. Salut.
À vous aussi, au revoir.